Bienvenue sur Radio Grand Ciel. Nous sommes dans le studio pour votre émission mensuelle Histoire et Mémoire consacrée à l'histoire de Chartres. Alors je suis avec Stéphane Herouin. Bonjour Stéphane.
Bonjour Julia.
Alors Stéphane, on s'est déjà rencontré, on a déjà créé une émission autour de l'anthropologie parce que c'est votre spécialité au sein de la direction de l'archéologie de la ville de Chartres et de Chartres Métropole. Vous êtes anthropologue. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques minutes quel est votre métier exactement ?
Alors l'anthropologue est le scientifique qui s'occupe plus spécifiquement des ossements humains et de tout ce qui va tourner autour. Donc ça va être essentiellement les gestes funéraires, étudier bien sûr les identités biologiques des individus inhumés ou brûlés.
Donc vous allez peut-être à partir des fouilles, donc vous occupez de tous les restes humains, tous les ossements que l'on pourrait découvrir. Alors justement là on va pouvoir à partir de votre spécialité, l'étude des ossements humains, parler d'une fouille qui a été réalisée en 2017 par l'équipe de la direction de l'archéologie qui avait lieu rue du Bourgneuf sur une parcelle à l'emplacement de l'ancien collège Jeanne d'Arc. Alors Pour nos auditeurs, on va dans un premier temps de l'émission juste remettre un petit peu cette fouille dans son contexte et voir quelles données historiques vous aviez avant ou grâce à la fouille, refaire un petit panorama. Et dans la seconde partie de l'émission, avec Stéphane, on va particulièrement parler donc d'une découverte d'un cimetière qui était donc du coup adossé, hein, si je comprends bien Stéphane, à l'ancienne église Saint-Maurice, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, le secteur de la ville de Chartres, vers le secteur de Bourgneuf, était assez mal connu au point de vue archéologique. Alors, il y avait quand même quelques opérations, en particulier Place Drouaise, ou près de la Croix Jumelin, donc qui sont situées à peu près entre 200 à 300, 400 mètres. Mais c'était un secteur qui était assez mal connu, un petit peu à l'écart de la ville, on va dire, en particulier de la ville médiévale. Alors, plusieurs choses ont été trouvées sur cette fouille. Des traces très anciennes, en fait, d'occupation humaine, puisque nous avons des traces dès le paléolithique, ce qui est quand même assez rare sur le territoire chartrain.
Mais donc, si on remet le paléolithique dans la chronologie, on est carrément alors, quasiment 10 000 ans avant Jésus-Christ.
C'est même nettement avant. Hein, on peut même être, le paléolithique est très large. Alors là, c'est un petit peu compliqué de dater précisément cette occupation parce qu'elle est très sporadique. C'est-à-dire que nous avons retrouvé des outils en silex taillés de cette période. Alors il en faut quand même un certain nombre avant de définir la période exacte. Mmh. Mais le paléolithique, c'est très large, hein, puisque ça va de 3 millions d'années à 12 000 ans avant Jésus-Christ.
Et à la suite, est-ce qu'il y a eu d'autres découvertes comme ça qui nous permettent de suivre le fil chronologique de cet espace rue du Bourgneuf ?
Alors tout à fait. Donc on voit que les hommes s'installent un peu plus, pendant le néolithique, excusez-moi. Donc le néolithique moyen en particulier, donc on est 4000 à 2900 avant Jésus-Christ à peu près, puisque nous avons retrouvé les traces d'une maison circulaire associée à trois fours, donc qui étaient utilisés bien sûr pour l'habitat.
D'accord, donc plutôt un usage alimentaire, domestique.
Voilà, donc là on sait qu'il y a un habitat néolithique, alors on est juste en limite en plus de la prescription, donc il peut y avoir d'autres vestiges autour bien sûr des parcelles qui ont été fouillées. Ce qu'il faut dire, c'est que ces fours sont tout à fait typiques du néolithique d'Eure-et-Loir, donc on les connaît déjà dans D'accord. d'autres secteurs. Ensuite, l'occupation est un peu plus sporadique, on va dire. On a quelques traces, mais c'est pas très évident à souligner. Il faut attendre en fait la transition, le changement d'air, hein, donc pendant la période augustéenne. Donc on est à moins 27, plus 15 hein, pour Auguste. Pour retrouver des occupations un peu plus développées, qui vont se prolonger jusqu'au IVe siècle à peu près.
D'accord, donc pendant la période antique, on retrouve donc une occupation. Est-ce qu'il y a des indices qui vous disent si c'est plutôt une zone habitée ou juste une zone de passage ?
Alors, on est quand même un petit peu en dehors de réellement de l'habitat, mais on a quand même quelques traces qui montrent qu'on est proche de zones habitées, et en particulier, alors il est proche aussi bien sûr d'une voie, hein, qui est la voie qui reliait Chartres à Évreux, en passant par Dreux. voire antique du coup. Et puis il y a surtout la découverte de quelques fragments de marbre et de gros blocs de calcaire qui indiquent qu'il y avait probablement un bâtiment assez luxueux dans ce secteur, mais qui n'est pas sur l'emprise de fouilles.
D'accord. Alors, c'est vrai que vous êtes toujours contraint par ces limites de fouilles. Qu'est-ce qu'on en sait après? Que se passe-t-il dans le haut Moyen-Âge, donc à partir du 5e siècle?
Alors, on sait qu'il y a une occupation effectivement à partir du 5e siècle, puisqu'on va retrouver, donc pour la période mérovingienne en particulier, on va retrouver des fonds de cabanes, donc des structures d'habitation. On va retrouver un puits aussi, et on aura une sépulture, mais on va y revenir, puisque selon les textes, Saint Aimant aurait ici édifié un monastère dès le 6e siècle. Donc c'était juste de la tradition orale et effectivement la trace de bâtiments, en tout cas d'occupation à cette période, pourrait justifier ou en tout cas confirmer qu'il y avait bien un monastère et surtout cette sépulture du 6e siècle semble venir confirmer cette hypothèse.
Ça. Donc il y aurait un édifice donc peut-être dédié à Saint-Maurice, mais ça vous allez nous le redire donc dans la deuxième partie de l'émission. Et donc on va avec Stéphane du coup remonter dans le temps jusqu'au 6e siècle et revoir donc l'évolution de ce quartier autour de cette église et des découvertes anthropologiques qui ont pu y être faites. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Reprenons notre émission Histoire et Mémoire aujourd'hui avec Stéphane Herouin. Rebonjour Stéphane pour ceux qui prennent l'émission en cours. Alors nous développons aujourd'hui l'histoire du quartier du Bourgneuf. D'ailleurs, pour les plus curieux, vous pourrez retrouver tout cela par écrit dans le Archéo numéro 29 qui est consacré justement à l'histoire de ce quartier du Bourg Saint-Maurice au Bourgneuf de la préhistoire à nos jours. Et là, dans cette seconde partie de l'émission, avec Stéphane qui est anthropologue, on va parler plus des découvertes du cimetière ou des sépultures qui ont été associées à cette église Saint-Maurice qui a été définitivement détruite, Stéphane, vers 1797, c'est ça ?
Tout à fait. En fait, cette église est mentionnée dans les textes pour la première fois au Xe siècle. Alors, on n'a pas retrouvé les traces, bien sûr, de l'église du Xe siècle. Et elle aurait été aussi élevée au rang de collégiale au XIIe siècle. En fait, peu de choses sont connues sur cette église, parce que les archives sont peu nombreuses. Mais il semble que l'histoire a été un peu mouvementée pour cette église. Elle a été en partie détruite et reconstruite durant les XIIIe, XIVe siècles. Elle apparaît quand même sur certaines iconographies, en particulier sur un tableau qui représente le siège de la ville de Chartres en 1568.
Vous retrouvez d'ailleurs ces iconographies dans le petit archéodon qu'on vient de mentionner.
Voilà, tout à fait. Et puis ce tableau est au musée des Beaux-Arts de Chartres, donc il est visible. Qui sera détruite en particulier par les Chartrains, puisque le prince de Condé aurait utilisé cette église en fait pour avoir une position, vous voyez, un peu dominante sur la ville. Donc les canons Chartrains l'ont un peu pilonné, donc on va dire, et elle va être reconstruite différemment par la suite, donc probablement à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Puisque sur un autre tableau, là encore, elle est représentée d'une façon différente. On voit que le clocher a été changé de place et que le toit est plus bas.
D'ailleurs, je reviens un petit peu pour nos auditeurs qui nous suivent régulièrement. Nous avions fait une émission consacrée à l'église et notamment à la découverte de moules à cloche. C'était à l'occasion de Pâques l'an dernier. Donc vous pouvez réécouter sur le site de Radio Grand Ciel, bien évidemment.
On arrive donc au niveau du cimetière. Alors, on savait qu'il y avait un cimetière près de cette église de Saint-Maurice. On savait aussi, d'après les plans, que l'église était à peu près dans le secteur de la fouille. Normalement, en dehors, d'après nos recalages que nous avions effectués d'après ces plans. Mais nous avons eu un petit bout, on va dire. On a eu le côté nord de l'église. Donc, on a retrouvé les traces de cette église du XIIIe siècle. Et la surprise a été de retrouver le cimetière attenant, puisque sur les plans, mais c'était des plans du 18e, donc on sait que les cimetières peuvent évoluer par leur position, le cimetière était plutôt au sud, là on est au nord de l'église et on a retrouvé 180 sépultures.
Est-ce que du coup ce sont des sépultures qui s'échelonnent à travers les siècles? Depuis quand date la première, si vous avez pu la dater, et la dernière?
Alors la surprise vient effectivement des datations sur ces sépultures. Nous avons fait des datations sur os, donc on utilise le carbone 14. On a eu quelques surprises puisqu'on pensait que c'était une occupation assez resserrée dans le temps. Et en réalité, nous avons des sépultures du 6e jusqu'au 17e siècle. Donc une période funéraire, enfin d'utilisation funéraire assez longue.
Et du coup, quand vous avez une période d'utilisation assez longue, il y a certainement peut-être des pratiques qui ont évolué à travers les siècles. Est-ce que vous avez réussi à trouver des traces de ces différentes pratiques? Comment avez-vous retrouvé les sépultures, en fait?
Alors en fait, au départ, on pensait que c'était plus resserré, puisque les sépultures qui sont à l'extérieur de l'église, donc ça va être la densité de sépultures, la plus importante, c'est là. Donc 9e, 13e siècle plutôt, donc là c'est quand même assez resserré, et on retrouvait des pratiques régulières, c'est-à-dire les individus adultes sont tous dans la même position, les membres supérieurs repliés, les membres inférieurs en extension, etc. Bien sûr, orientés tous de la même façon, avec des directions de tombe qui fluctuent, mais très légèrement. Donc, c'est-à-dire toujours quasiment la même direction. Donc très régulièrement les mêmes positions, les mêmes gestes. Donc, ce qui faisait penser à une chronologie assez resserrée. La sépulture du VIe siècle se trouve à l'intérieur, enfin dans l'espace intérieur de l'église. Mm-hmm. Il n'y a pas d'église au VIe siècle, nous sommes bien d'accord. Et en plus, elle est particulière parce que c'est la seule sépulture aménagée que nous avons qui, l'individu a été déposé dans un sarcophage de plâtre. On en a retrouvé des traces. Alors, il est mal conservé, malheureusement, mais on en retrouve des traces. Alors ça, c'est très intéressant, puisqu'on connaissait cette pratique à l'époque mérovingienne, essentiellement pour l'Île-de-France et la Normandie, jusqu'à récemment, puisque lors de la construction de la déviation d'Allonne, donc en Eure-et-Loire, a été retrouvé un grand cimetière mérovingien, et là aussi, il y avait des sarcophages de plâtre. D'accord. Donc, on voit que cette pratique déborde, on va dire, des régions Île-de-France-Normandie et vient jusqu'à chez nous.
Jusqu'à chez nous, à Chartres. Ce qui veut dire que si celle-ci avait une sépulture avec un coffrage en plâtre, les autres étaient inhumés comment ? Est-ce qu'ils étaient en pleine terre, juste dans un linceul ? Quelles étaient les pratiques ? Ou en bois, et donc des matières, par exemple, que vous n'avez pas pu retrouver ?
Alors, pour le VIe siècle, on est sûr d'en avoir une, mais on ne peut pas toutes les dater. Forcément, pour une question de coût, il y en a peut-être d'autres, mais on refera des datations probablement pour en être sûr. Les autres sépultures, donc l'essentiel des autres sépultures du 9e, 13e siècle en particulier, correspondent à des individus déposés directement dans des fosses, probablement à linceul bien sûr, des fosses étroites, certaines sont assez profondes, et donc c'est vraiment une inhumation. Il n'y a pas de cercueil, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de clous. Là, on est sûr qu'ils sont directement en pleine terre, ce qu'on appelle dans notre métier.
Et est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que là, du coup, dans ce cimetière-ci, vous avez retrouvé tout type d'individus, ou est-ce que c'est juste une catégorie de population où tout le monde pouvait être inhumé dans ce cimetière ?
Alors voilà, c'est ce qui est intéressant, bien sûr, sur un vaste ensemble comme celui-ci, car 180 sépultures, ça commence à faire un bel échantillon. Alors nous avons des individus des deux sexes, nous avons des individus de tout âge, puisque nous avons même quelques fœtus, donc ce qui est assez rare de les retrouver dans les cimetières d'ailleurs. Donc probablement, on voit qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée de ce cimetière, probablement donc l'image que l'on a d'un cimetière paroissial médiéval moderne.
Et est-ce que parmi ces sépultures, vous avez retrouvé quelques objets ou uniquement... est-ce qu'on accompagnait le mort avec des objets ? Est-ce que vous avez pu les retrouver ou du tout ?
Alors, malheureusement, on est dans une période du Moyen-Âge, en particulier entre 12e, 14e siècle, où on dépose très peu de mobilier avec les morts. Hein. C'est le dénuement total.
D'accord.
Donc vous comprendrez qu'effectivement, on n'a pas retrouvé beaucoup de mobilier avec ces morts. On a retrouvé quelques petites choses, mais pour les sépultures postérieures, c'est-à-dire plutôt les sépultures du XVIIe siècle, on va dire.
Et justement, qu'est-ce que vous avez retrouvé du coup pour ces sépultures qui sont postérieures ?
Alors on a retrouvé en particulier une bague, des petits anneaux en alliage cuivreux, etc. C'est pas non plus l'opulence, hein. On n'a pas énormément de mobilier, mais on a quand même quelques petits objets associés à ces individus.
Et est-ce qu'il y a parmi ces sépultures, vous nous avez parlé de celle donc avec ce sarcophage de plâtre, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont attiré votre attention ? Est-ce qu'il y a des particularités ou un squelette qui a attiré votre attention parce qu'il y aurait eu une maladie particulière ou qui aurait pu être un indice pour vous de la vie des Chartrains à cette époque ?
Alors effectivement, d'après les squelettes, on peut aussi regarder les conditions de vie, etc. Alors pour l'instant, l'étude est encore en cours, donc malheureusement, on ne peut pas donner les résultats définitifs. Mais les premières observations ne voient pas de pathologie particulière, donc pour l'instant, voilà. Mais il y a quand même une sépulture qui, dès le terrain, nous a intéressés, puisque nous avons retrouvé une sépulture du XVIIe siècle, cette fois-ci. Donc vous voyez, on est à l'autre bout de la chronologie, où on a retrouvé le squelette d'un individu féminin, donc mort enceinte, puisque nous avons retrouvé le fœtus en place, et peut-être, probablement, elle est morte lors de l'accouchement. Alors ça, c'est très difficile à démontrer, malheureusement, mais c'est l'hypothèse.
C'est une hypothèse qu'on ne pourrait peut-être pas confirmer.
Voilà.
Et du coup, cette femme, donc peut-être morte en couche, vous me disiez tout à l'heure en préparant l'émission que vous avez un petit indice, qu'il y avait peut-être un texte associé, c'est ça ?
Alors voilà, pour l'anecdote, mais on ne saura jamais sûr s'il s'agit bien de cette personne. Hein. Donc le responsable d'opération, lorsqu'il a préparé, lors de la phase de rapport, donc nous sommes en phase de rapport actuellement, a retrouvé un texte qui indique effectivement qu'une femme est morte enceinte et a été inhumée dans l'église. Et là, la sépulture est très exactement placée au-dessus du moule à cloche, dont vous avez parlé dans une émission précédente. C'est-à-dire qu'on est très proche du clocher de l'église, on est bien à l'intérieur de l'église. Et on est bien au XVIIe siècle.
Donc cette femme est peut-être celle qui a été décrite
sur le texte.
Peut-être
que pour une fois, on a un texte associé à un mort.
Une découverte. Et comment, Stéphane, on l'a évoqué aussi en préparant l'émission, parce que cette gestion-là de l'espace, comme vous le disiez, sur un espace quand même réduit, mais surtout dans un temps très long, sur plusieurs siècles, cet espace funéraire a été utilisé. Est-ce que, du coup, comment est-il aménagé? Comment a-t-il été, du coup, géré tout au long de ces siècles?
Alors oui, parce que là, je vous disais, 180 sépultures, enfin, les personnes verront dans l'archéo 29, effectivement, que c'est sur un espace assez restreint et se pose des problèmes de place, au bout d'un moment, bien entendu. Alors, au Moyen-Âge et au début de la période moderne, très régulièrement, ce que l'on observe, c'est qu'il y a des recoupements entre sépultures, c'est-à-dire que quand on va creuser une fosse, eh bien, on peut recouper une sépulture qui est antérieure, qui existe déjà. Et à cette période, en fait, ils vont repousser les ossements de l'individu antérieur, soit sur le côté, soit le déposer sur l'individu qu'ils sont en train d'inhumer.
D'accord.
Ce qu'on appelle une réduction.
Donc on peut retrouver, du coup, plusieurs individus dans une même sépulture.
Tout à fait, voilà. Donc, généralement, quand on fouille ces sépultures médiévales, on va retrouver des ossements qui n'appartiennent pas à l'individu. Et il faut regarder les sépultures autour pour savoir lesquelles ont été recoupées.
D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres pratiques, à part juste donc du coup réduire, enfin d'accumuler plusieurs personnes dans une même sépulture, où il y a déjà une fosse commune qui existerait dans ce cimetière?
Alors on peut faire effectivement d'autres gestes, donc c'est ce qu'on va appeler des fosses type ossuaire, où on va déplacer carrément les individus. En tout cas, les os les plus volumineux, parce qu'ils ne vont pas faire un ramassage exhaustif, et on va les retrouver dans une fosse. Voilà, donc on en a trouvé une, en effet, au Bourgneuf, où on a plusieurs dizaines d'individus représentés, pas complets, bien sûr, mais représentés, où on va retrouver essentiellement les os longs, les crânes, enfin les os les plus volumineux.
Et là, Stéphane, tout ce métier-là, parce que tu as l'impression d'être, du coup, face à un puzzle humain, hein, ça peut paraître un peu déstabilisant, mais c'est votre métier. D'ailleurs, vous allez nous expliquer tout ça lors des journées de l'archéologie, je crois, hein, qui se déroulent les 15 et 16 juin prochains.
Tout à fait. Donc, les journées nationales de l'archéologie qui se situeront donc sur le site de Saint-Martin-en-Val, dans le quartier...
Saint-Brice.
Saint-Brice, merci. seront dédiés à l'anthropologie. Donc, les personnes pourront voir notre métier, découvrir notre métier, du terrain jusqu'au laboratoire, donc c'est-à-dire la fouille, bien sûr, voir ce qu'il faut observer dès le terrain et toute la phase d'étude, ce que l'on peut tirer d'un squelette humain.
D'accord. Et là, les enfants pourront aussi, avec leurs parents, manipuler un peu. Il y aura quelques ateliers pédagogiques.
Tout à fait, voilà. Donc, il y aura des ateliers sur comment on estime l'âge, comment on estime le sexe, comment on reconnaît les os, etc.
Et je crois qu'il y aura d'autres surprises, mais ça, il faudra venir, du coup, sur le site de Saint-Martin-en-Val, donc dans le quartier Saint-Brice, les 15 et 16 juin prochains. Je pense qu'on va terminer là notre émission pour aujourd'hui, même si c'est un sujet passionnant, on aurait pu continuer, mais voilà, le temps nous manque, alors on retrouvera peut-être Stéphane pour une prochaine édition de notre émission Histoire et Mémoire. En tout cas, donc on vous mentionnait en début d'émission le Archéo 29 consacré donc au quartier du Bourgneuf, le Bourg Saint-Maurice de la préhistoire à nos jours, que vous pourrez retrouver sur le site internet archéologie.chartres.fr. Redécouvrir l'émission et aussi l'émission qu'on avait fait avec Jérémy Viré sur le quartier et l'église en préambule. Voilà, on vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur Radio Grand Ciel. Merci Stéphane.
Merci, au revoir. Thank you.
trésors qui se partagent. Parce que notre monde a tant besoin d'engagement, d'espérance, de fraternité. Parce que l'Église ne vit que des dons de ses fidèles, merci pour votre soutien à sa mission. Faites un don sur deniers.catholique.fr.
Vous bénéficierez d'une déduction fiscale de 66% du montant de votre don. Le passage au prélèvement à la source ne modifie en rien le montant de cette déduction.
François Cornu interprétera l'intégrale des Nocturnes de Frédéric Chopin en deux concerts les 28 et 29 juin prochains. C'est au Musée des Beaux-Arts à Chartres. Vous pouvez réserver vos places. C'est 15 € pour un concert et 25 € pour les deux concerts. Bien sûr, nous vous conseillons de réserver au 09 54 44 22 87. Je vous le redis, 09 54 44 22 87.
Vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel et nous vous donnons la parole sur notre page Facebook. Réagissez, commentez, faites-nous part de vos coups de gueule ou de vos coups de cœur et surtout, restez connectés à l'actualité de votre radio préférée.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.